générale des sciences.
Et pour commencer cette semaine, le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science a célébré son 20e anniversaire. C'était hier à Paris, dans les locaux de l'UNESCO. Et bien, ce prix a récompensé, comme chaque année, une scientifique de grande envergure par continent pour l'ensemble de sa carrière, Zoé.
Oui, puisque si la création de ce programme, donc née en 98, la proportion des femmes engagées dans des carrières de la science a augmenté de 12%, les chiffres restent alarmants. Et donc, ce programme a toujours raison d'exister. Moins de 30% des chercheurs sont des femmes dans le monde d'aujourd'hui. Seuls 11% des hautes fonctions académiques sont exercées par des femmes et seulement 3% des prix Nobel leur ont été attribués. Alors, première étape pour tenter de changer la donne, c'est d'abord la reconnaissance. Il y a donc chaque année 5 lauréates, une par continent, qui sont couronnées pour leur contribution déterminante. Par exemple, cette année, pour l'Amérique du Sud, il y avait Amy T. Austin, professeure d'agronomie à l'Université de Buenos Aires. Alors, elle a été formée aux États-Unis, mais ça fait 20 ans qu'elle travaille notamment sur les écosystèmes de Patagonie. Et en 2006, elle et son équipe contribue de manière déterminante à comprendre le cycle du carbone en démontrant pour la première fois que le rayonnement solaire est le principal processus qui commande la perte de carbone dans les écosystèmes.
La découverte très excitante que nous avons faite en Patagonie, c'est que le rayonnement solaire et la photodégradation jouent un rôle très important dans le cycle du carbone. Le soleil, quand il entre en contact avec les feuilles des arbres tombées au sol, libère une partie du CO2 que ces feuilles avaient accumulé. La théorie qui prédominait jusque-là, c'était que la décomposition biotique des microbes et de la faune dominait le cycle du carbone. C'est aussi vrai, mais c'est très important de comprendre qu'une partie de ce carbone retourne dans l'atmosphère grâce au rayonnement solaire. Et c'est une bonne chose, car sinon il continuerait d'être accumulé dans les écosystèmes. Cette découverte du rôle que joue le rayonnement solaire dans ce cycle du carbone a été un tournant et peut changer la manière dont nous faisons nos prédictions. Pour vous donner un exemple, dans les écosystèmes très secs comme ceux de Patagonie, on se préoccupe souvent de savoir s'il va pleuvoir. Mais peut-être ce qu'il faut plutôt prendre en compte, c'est les changements de rayonnement solaire. Est-ce que le ciel est plus ou moins nuageux? Parce que c'est aussi ça qui modifie profondément le cycle du carbone. Plus il y a de soleil, plus l'écosystème va perdre du carbone et plus il va en relâcher dans l'atmosphère. Étant donné que l'activité humaine produit déjà beaucoup d'émissions de carbone, c'est une donnée qu'il faut vraiment prendre en compte. Et c'est là, sans doute, que se trouve l'une des applications la plus importante de notre découverte.
Et depuis l'an 2000, le programme L'Oréal UNESCO accorde des centaines de bourses à des femmes scientifiques. Et chaque année, eh bien, il distingue parmi ses boursières 15 talents prometteurs internationaux.
Oui, parce que ce programme, il n'a pas cessé au cours de ses 20 ans d'existence de faire évoluer son action pour être de plus en plus pertinente. Cette année, par exemple, il y a une initiative intitulée « Les hommes s'engagent pour les femmes en sciences » qui va être lancée pour obtenir des leaders du monde universitaire masculin un engagement à encourager les chercheuses au moment les plus charnières de leur carrière. Autre levier, évidemment, soutenir ces chercheuses au début de leur parcours. C'est le rôle notamment de ces talents internationaux, de ces prix talents internationaux, qui tentent de valoriser des chercheuses qui travaillent aussi sur une meilleure présence des femmes comme objet de recherche. Parce qu'on le sait, il existe aussi bien une espèce de discrimination homme-femme sur la recherche, notamment sur les maladies cardiaques, sur la dépression, toujours une surreprésentation des sujets femmes. Toutes les femmes du globe ne sont pas non plus égales face à la recherche. La malaisienne Wang Ki-ho est statisticienne épidémiologique. C'est un des talents prometteurs internationaux de cette année et elle travaille à fournir des données pour mieux traiter le cancer du sein chez les femmes asiatiques.
L'incidence du cancer du sein est beaucoup plus importante dans les populations caucasiennes que chez les Asiatiques. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles nous, les Asiatiques, avons reçu si peu d'attention des chercheurs. Et c'est normal. Mais on sait que dans les 20 prochaines années, le nombre du cancer du sein va augmenter de 50% en Asie. Ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin urgent d'agir et de développer des études génétiques adaptées. Parce qu'en dépit du fait que nous représentons une part importante de la population mondiale, il n'y a que 5% de toutes les études génétiques qui concernent les Asiatiques aujourd'hui. De plus, particulièrement en Malaisie, le taux de survie à 5 ans pour le cancer du sein est très bas, 49% contre 89% dans les pays caucasiens. Le défi aujourd'hui, c'est de trouver ces femmes avant que la maladie ne leur soit fatale. Je travaille donc à mettre sur pied des modèles qui peuvent identifier les femmes les plus à risque pour pouvoir proposer des mammographies régulières à ce public très ciblé. Car ici, les mutations du fameux gène BRCA ne sont responsables que de très peu de cancers. Qu'en est-il du reste? Nous disposons de plusieurs études qui ont identifié une centaine de mutations génétiques très communes dans la population malaisienne. Aucune de ces variations n'est responsable à elle seule du cancer du sein. Moi, ce que j'essaye donc de faire, c'est de combiner ces mutations génétiques dans différents modèles pour pouvoir répartir les femmes dans différents groupes à risque.
En bref, le prix Abel de mathématiques a été décerné au Canadien Robert Langlands.
Avec la médaille Fields qui n'est attribuée que tous les 4 ans. Et d'ailleurs, ça va être cette année, ce prix est l'équivalent du Nobel de mathématiques. Il a été créé en 2003 par la Suède pour pallier le manque d'existence de ce prix. Il récompense donc cette année le mathématicien canadien Robert Langlands. C'est le fondateur d'un programme qui porte son nom et qui vise à établir les liens entre la théorie des nombres et l'analyse harmonique. Depuis les années 60, son projet a mobilisé des centaines de mathématiciens dans le monde. Aucun autre projet dans le monde des mathématiques modernes ayant une portée aussi large a produit autant de résultats profonds et mobilisé autant de personnes.
La ministre des Armées annonce un plan pour le développement de l'intelligence artificielle au profit bien précisément des armées françaises, Zoé.
Annonce faite lorsqu'elle participait au lancement du projet Man-Machine Teaming chez Dassault Aviation à Saint-Cloud. Florence Parly a précisé qu'une cinquantaine d'experts supplémentaires en data science seraient recrutés pour mener à bien ce programme qui doit bénéficier essentiellement à l'aviation de combat avec des investissements annuels assez importants de l'ordre de 100 millions d'euros.
Voilà, et puis l'intelligence artificielle, ce sera bien le thème de notre table ronde samedi prochain, le 31 mars, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour la troisième et dernière édition du Forum l'année vue par les sciences qui est consacré aux révolutions de l'intelligence. L'entrée est gratuite, mais il faut vous inscrire sur franceculture.fr ou maisondelaradio.com. Deuxième sujet cette semaine, les oiseaux des campagnes françaises disparaissent à une vitesse vertigineuse ces 3 dernières années. Mais qu'en est-il en Europe, Zoé ?
Largement reprise, détaillée cette semaine d'ailleurs sur le site de France Culture. 2 études concordantes du CNRS et du Muséum d'Histoire Naturelle parues mardi alertent sur cette chute vertigineuse des oiseaux comme l'alouette des champs, les perdrix. Une chute du population d'un tiers en moyenne sur 3 ans, qui va jusqu'à 90% en 3 ans seulement pour la tourterelle des bois. En cause, la monoculture et le développement exponentiel de l'agrochimie, depuis notamment la crise du blé dans les années 2010. Alors, sommes-nous le seul pays en Europe à connaître cet effondrement, particulièrement marqué ces 2-3 dernières années ? Loin de là d'ailleurs, nous expliquait Romain Julliard, s'il est chercheur en biologie de la conservation au Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est l'un des co-auteurs de l'une de ces 2 études et il travaille régulièrement à mettre au point des études à l'échelle européenne.
On n'a pas les chiffres avec la même actualité consolidée à l'échelle européenne. On est dans des systèmes qui sont assez lents à faire remonter ces informations et ça c'est un vrai enjeu d'être dans le temps réel pour mesurer cette biodiversité, pour pouvoir être efficace en termes de politique et de prise de décision. Pour avoir partagé avec des collègues cette reprise du déclin des oiseaux et aussi des papillons sur lesquels on a des chiffres un peu aux mêmes échelles, c'est quelque chose de partagé depuis le tournant des années 2010. Cela dit, on pensait qu'en France, on était un petit peu préservé de chiffres qui étaient de cette ampleur-là dans nos pays voisins, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Italie du Nord, dans lequel il y a des chiffres assez bien documentés, voit des disparitions à des échelles régionales, 95-98% des alouettes qui ont disparu. On ne pensait pas avoir ça un jour en France. Et ce qu'on a vu, on rattrape entre guillemets notre retard ou la forme de résilience qui est due aussi au fait que le modèle agricole français il est un peu moins intensif, que les exploitations sont en moyenne de plus petite taille que ces pays que j'ai cités. Malheureusement, on constate que entre dans une forme de norme. L'espoir quand même, c'est que tout ça soit réversible. On sait que le Danemark a une politique extrêmement ambitieuse en termes d'agriculture respectueuse de l'environnement depuis une vingtaine d'années et ça paye. Il y a des quantités de biodiversité qu'on retrouve dans ces conditions.
En bref, le dernier rhinocéros blanc du Nord est mort cette semaine, Zoé.
Oui, c'était au Kenya, il avait 45 ans, il souffrait depuis longtemps de complications de santé liées à son âge et il a donc été euthanasié par l'équipe vétérinaire qui s'en occupait. Devenu le symbole de l'extinction d'une espèce à cause de la violence des hommes, Soudan était le dernier représentant de cette espèce de rhinocéros, l'une des 3 présentes en Afrique. Son habitat naturel se situe entre le Soudan, le Tchad, la Centrafrique, région marquée par des conflits violents qui ont favorisé son braconnage.
La planète naine Cérès abrite un monde qui est plus complexe que prévu.
Les données de la sonde Dawn, qui est en orbite autour de Cérès depuis 2015, révèlent que cette planète naine est un corps dynamique qui continue d'évoluer, de changer. L'aspect de la surface de Cérès évolue en fonction de sa distance avec le Soleil. On a pu observer, notamment au niveau du cratère de Yongling, un phénomène de sublimation-condensation de l'eau qui est fréquent sur les comètes, mais qui est assez inattendu sur Cérès. Autre information, Dawn a repéré des quantités significatives de carbone de sodium hydraté sur la plus haute montagne de cette planète naine, ce qui suggère des évolutions géologiques récentes très importante.
Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable, eh bien vous allez être beaucoup moins tranquille en avion grâce à vous, Zoé. Ça n'est pas pour des raisons de crash aérien.
Et non, eh bien vous l'étiez peut-être déjà un peu parano, mais là, cette étude parue dans PNAS se penche sur cette fameuse question. Si vous êtes hypochondriaque, là, carrément, vous allez paniquer sur le niveau de contagion d'un malade dans l'avion. Les chercheurs sont montés à bord de 10 vols aux États-Unis et ils ont repéré scrupuleusement les mouvements des passagers pour déterminer la probabilité d'infection, comme sur des infections comme la grippe ou le SRAS, avec des minuscules gouttelettes dans l'air et dans les surfaces. Alors déjà, bonne nouvelle, on s'est rendu compte que ça passe vraiment par la toux. Par exemple, sur les tablettes, on ne retrouve pas de traces de virus. Mais la conclusion est la suivante. Les passagers assis à moins d'une rangée et à moins de deux sièges latéralement du passager contagieux ont une probabilité d'au moins de 80% d'être infectés. Donc si vous avez un type qui tousse à côté de vous, de toute façon, c'est cuit. Pour tous les autres passagers, en revanche, la probabilité de la contamination était à moins de 3%. Donc là, ça va. Il faut vraiment faire un petit effort. En revanche, évidemment, les membres de l'équipage sont très dangereux. Ils peuvent infecter en moyenne 4,6 passagers par vol. Il est impératif qu'ils ne volent pas quand ils sont malades. Donc tout ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles parce que c'est peut-être un petit peu inférieur comme probabilité que ce qu'on pensait. Mais comme le dit le chercheur américain auteur de cette étude, on n'a toujours pas cette option. Cliquer sur trouver un siège à au moins 3 sièges de distance d'une victime de la grippe pour les compagnies aériennes, c'est dommage.
Voilà, et ça du coup maintenant permet de réévaluer les risques dans les transports en commun. Donc bon courage tout à l'heure quand vous rentrerez chez vous. Merci beaucoup Zoé, à la semaine
Merci
prochaine.
À vous.